Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ok, nous allons continuer donc sur l'Apocalypse. Et je vous rappelle que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Le fait de dévoiler quelque chose, une connaissance que Dieu, bien sûr, a, puisque Dieu connaît toutes choses, mais d'un seul coup, il enlève un voile sur cette connaissance et la rend, transmet cette connaissance aux hommes. Nous avons vu que c'est le livre qui clôture la Bible, bien sûr. Et Dieu a clôturé sa révélation, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Et je vous ai montré quand on étudie l'Apocalypse, parce que là on va rentrer de plus en plus dans l'étude. C'est l'histoire finale de l'humanité. C'est Dieu qui vient restaurer totalement sa propriété, son royaume, donc, et qui vient instaurer ce royaume sur la terre. Donc on a vu que ce n'était pas un livre de catastrophe, même si on va voir qu'il y a beaucoup de catastrophes qui vont venir de la part de Dieu
pour juger les hommes.
Et on verra les confrontations de puissance, particulièrement dans ce qu'on appelle la tribulation. Mais dans ce livre, on a des révélations sur la gloire de Dieu comme on n'a quasiment dans aucun autre livre. Des précisions sur le ciel, le troisième ciel. On a vu que c'était un livre qui n'est pas forcément chronologique, donc il faut être prudent quand nous étudions l'Apocalypse. Il est rempli de symboles qu'il faut comprendre. Il
n'est
pas là pour nous faire peur. Mais au contraire, c'est pour nous montrer où est-ce qu'on sera, où est-ce qu'on va passer toute l'éternité. C'est aussi un livre qui prévient l'humanité. Et qui montre que l'humanité doit se repentir et accepter celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs et le propriétaire de la terre et des cieux. Je vous ai montré aussi que nous ne pouvons pas spéculer sur les événements que nous voyons sur les télés et que nous écoutons à la radio, que nous lisons dans les journaux
ou sur internet,
parce qu'en fait ce sont des choses qui sont préparatoires peut-être, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui va se passer pendant ce qui nous est décrit dans la tribulation. Donc bien sûr, nous ferons des sauts aussi dans certains livres prophétiques qui sont entre autres le livre de Daniel. Un peu aussi dans Zacharie. Et nous jetterons un petit coup d'œil dans l'évangile de Matthieu, bien évidemment. Je sais que certains, quand vous entendez Apocalypse, il n'y a qu'une chose que vous avez à l'esprit, entre guillemets, c'est dire « Ah, la bête 666, le faux prophète, blablabla ». Il y a beaucoup d'autres choses dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, les gens en ont fait ça, en fait, de 666, la bête, l'antichrist, etc. C'est pas le but de l'Apocalypse. Pas du tout le but de l'Apocalypse. L'Apocalypse veut nous révéler la gloire qui nous est réservée. La gloire de Dieu. Réellement Christ glorifié. Dans les cieux et sur la terre. La victoire finale irrévocable de celui qui s'est donné à la croix pour nous. Et qui est ressuscité. et qui est en train de se préparer un peuple qui vivra ces choses et verra cette victoire extraordinaire. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Nous verrons la destruction des systèmes de ce monde. Parce que Dieu, pour récupérer la gestion de sa propriété, détruira les systèmes de ce monde pour établir le vrai seul système qui est juste, à savoir la royauté, avec un roi qui est parfait et des sujets qui seront immortels et qui ne pourront jamais pécher. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc nous avons vu l'introduction au chapitre 1. Nous avons vu que Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes ce qu'il veut faire. Nous avons vu que Dieu nous conseille dans sa parole de la lire, d'écouter et de garder sa parole. Nous avons vu aussi, bien évidemment, que l'Apocalypse est faite de prophéties, c'est-à-dire, entre autres, de prédictions, c'est-à-dire dire à l'avance des choses qui vont se produire. Et puis, c'est la volonté souveraine de Dieu qui va s'accomplir, c'est-à-dire, c'est sans appel. Ce sont des choses que Dieu a déterminées d'avance. Christ est nommé d'une certaine façon dans l'Apocalypse. Entre autres, souverain des rois de la terre. On a vu qu'il est celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Je vous ai montré plusieurs choses à propos de cela. Je vous rappelle que la Bible parle du royaume de Dieu. Donc du règne de Dieu. Et comment Adam et Ève ont perdu ce règne, le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre.
Et
à cause de leur péché. Et comment Dieu est en train de restaurer d'abord ces choses. Ce règne, nous en sommes une partie puisque Jésus est venu régner dans nos cœurs.
Quand
quelqu'un naît de nouveau, Jésus vient régner dans son cœur.
Mais
pour l'instant, vous voyez qu'autour de vous, le règne de Christ n'est pas établi. C'est justement ce que le roi des rois va venir faire. Alors, je vous rappelle que nous avions vu un certain nombre de versets au chapitre 1. Là, nous allons terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Au verset 7, pour continuer le petit résumé. Donc, il vient sur des nuées. Je vous rappelle que toute tribu le verra de la terre, se lamenteront à son sujet. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, ça c'est pour Israël.
Et puis, donc
Jésus se présente comme l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toute chose, qui maîtrise toute chose. Ensuite, au verset 9, il est dit, moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus. J'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jésus, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Là ici, Jean nous explique où est-ce qu'il était quand il reçoit sa vision.
Et
je vous ai montré que l'île de Patmos, donc, c'est une île de la Méditerranée. On peut peut-être remettre là les cartes, oui c'est ça, voilà. Donc, vous voyez, juste à côté de la Turquie, là où il y a le petit cercle rond, on va grossir. Et c'est une petite île qui fait environ 12 km de long. Aujourd'hui, c'est une île touristique parce qu'on pense avoir reconnu la cave. D'ailleurs, je pense qu'on a une photo de ça. De reconnu la cave où Jean aurait reçu sa vision.
Voilà.
Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver parfois sur Internet, un endroit donc, où Jean se trouvait. pense. Donc c'était une île en fait pour les exilés. Jean était persécuté. Et bien sûr, le gouvernement de l'Empire romain à cette époque-là l'a mis loin du continent, entre guillemets, puisqu'il y a environ une centaine de kilomètres entre Éphèse et l'île de Patmos. Alors, je vous rappelle que le verset 10 nous dit « Je fus ravi en esprit », mais le verbe « ravir » n'est pas dans le grec. D'ailleurs, ici, il est entre parenthèses et c'est bien, d'ailleurs. Et en fait, il est dit littéralement « J'étais en esprit ». Et je vous ai montré qu'il y a différents types de visions. Trois types de visions. Vision dans l'esprit d'une personne. La personne voit quelque chose, elle a les yeux fermés. Ça, c'est ce qu'on appelle les visions spirituelles. Ensuite, il y a les visions ouvertes où la personne peut avoir à la fois le monde naturel et le monde spirituel. Ou seulement le monde spirituel. Ça, c'est être en esprit, c'est ce que Jean a vécu à ce moment-là. Il y a un troisième type de vision que Paul a eu et Jean aussi aura un peu plus après. C'est être ravi en esprit, littéralement, ça veut dire être aspiré, c'est-à-dire que la personne sort de son corps, son esprit, son âme sort de son corps. Et c'est ce que Paul avait vécu dans 2 Corinthiens 12, on en avait parlé la dernière fois. Alors je vous rappelle que la trompette, quand il est parlé ici de la trompette, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette. Et en fait, c'est souvent le signe, quand la trompette sonne, c'est souvent dans la Bible le signe d'un rassemblement pour prévenir et informer. Ou pour se préparer, par exemple, à la guerre. Mais aussi, on a vu que c'était le déclenchement d'une action divine. Par exemple, nous avons vu que pour l'enlèvement, nous l'avions vu la dernière fois, eh bien, il va y avoir le son d'une trompette. Dieu va sonner de la trompette céleste. Et nous verrons qu'il y a un certain nombre de fois où Dieu va sonner de la trompette et il va envoyer ses jugements sur la terre. Alors au verset 11, il est dit qu'il disait, donc ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc ici, il va y avoir 7 églises qui vont être mentionnées et on peut regarder rapidement où elles se trouvaient. Alors ici, en fait, on peut peut-être reculer, il y a une autre carte pour remontrer la Grèce et la Turquie. Voilà, ici vous avez toute la partie de la Turquie actuelle. Vous avez donc, reviens sur l'Europe. Donc l'Europe ici, vous avez l'Europe du Sud. Donc vous avez la France, vous avez l'Italie, ensuite vous avez la Grèce et après vous avez la Turquie de gauche à droite. On va grossir l'image sur la Turquie, donc voici la Turquie. Et en fait vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villes, vous voyez, ça fait comme une espèce, pas vraiment de cercle, mais une espèce de truc qui tourne. Et en fait, ces villes-là ne s'appellent plus telles que nous les voyons dans la Bible. Leur nom a été changé parce qu'entre-temps, il y a eu toute la conquête des musulmans dans ces coins-là. À partir du 7e siècle après Jésus, et il y a tout ce qu'on appelle l'ex-empire de l'Est, l'Empire romain de l'Est, qui arrivait jusqu'à Constantine, c'est-à-dire Ankara aujourd'hui. Qui a été colonisé complètement par le monde musulman. Donc c'est pour ça que ces villes-là, vous les trouverez, mais vous ne les trouverez plus sous un même nom, en tout cas pour la grande majorité. Donc Jésus va adresser un message. aux sept églises, et on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est donc sept endroits qui existaient, sept villes qui existaient. Sept églises où il y avait sept villes qui étaient connues. Donc. Au verset 12, nous allons commencer à voir une immense révélation.
Et
je vais juste lire donc en français. À partir du verset 12, il est dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Verset suivant. « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, bien sûr ça va être Christ, nous allons voir, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Verset 14. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Jean ici... va recevoir une vision de Jésus. Mais Jean connaissait Jésus selon la chair avant. Si vous lisez les évangiles, Jean a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, pendant toute la durée du ministère terrestre de Christ. Il a mangé avec le maître. Il a vu le maître enseigner sur l'amour du Père. Il a vu le Maître faire des miracles, des guérisons. Jean connaissait Jésus selon la chair. Jean aussi a vu Jésus ressuscité.
Ce
n'est pas une grande révélation que je vous donne, disaient les évangiles. Jean a vu Jésus ressuscité. Rappelez-vous le jour où ils sont nés de nouveau. Il y avait les 11 qui claquaient des dents parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Et Jésus vient au milieu d'eux. Les rassure. Les fait naître de nouveau. Et puis il disparaît. Et puis Jésus va apparaître et disparaître. Cela pendant plusieurs dizaines de jours. Puis Jésus va leur donner au début des actes des apôtres. Jean était là. Là on parle de Jean qui faisait partie des 11. Si vous lisez le début des actes des apôtres, Jésus ressuscité va leur apparaître un certain nombre de fois et il va leur parler directement. Il va leur donner des instructions. En gros, il disait, moi je vais retourner auprès du Père. Et vous, attendez, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il leur donne la grande mission, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jean avait l'habitude de voir Jésus selon la chair avant qu'il meure et avant qu'il ne ressuscite. Puis Jean a vu à plusieurs reprises Jésus qui était ressuscité. Et là, vers la fin de sa vie, Jean va avoir une vision de Jésus. Mais là, c'est très différent. Très différent. Jésus va se révéler à Jean de la manière dont Jean ne sera pas du tout habitué jusqu'à présent. Parce que Jésus est venu comme un simple homme. Mais dans le ciel, il est rempli de gloire. Et le jour où il va revenir chercher son Église,
ce
n'est pas, entre guillemets, vous comprendrez l'expression, le petit Jésus de la crèche qui est né, entre guillemets, dans la pauvreté. C'est le puissant roi de la terre qui va se manifester et qui va venir établir son règne. Mais là, dans le ciel, Jésus a été glorifié. Regardons bien la différence, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien cela. Dans Ésaïe 53, verset 1, Il est dit la chose suivante, Ésaïe 53, verset 1. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, verset 2. Il s'est élevé, regardez bien, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
Kumurongo gatatu ngo yarakengegwa agahugwa n'abantu yari umunyamibabaro yarazi ntimba icari cyo yakengegwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo natwe ntacho twamwibajije ko.
Dans Philippiens 2, on a le même genre de réflexion.
Abi Philippi kabiri turabona ikintu gisa nk'ico.
Jésus est venu rempli de douceur et d'humilité.
Yesu yaraje yuzuye guca bugufi kugira neza.
Il est mort à la croix.
Ngo yarapfuye ku musaraba.
Il est ressuscité d'entre les morts.
Hamarazuka mu bapfuye.
Mais maintenant,
ariko uyu munsi,
maintenant il est dans le ciel glorifié.
Uyu munsi ni Yesu arimo bonina hasuka.
Et quand il apparaît, la gloire est sur lui, comme nous allons le voir dans quelques minutes.
Kandi yabonetse aranina arimo bonina hasuka.
Il est venu vraiment dans toute humilité comme un simple homme.
Yaje aciye bugufi nk'umuntu asanzwe.
Comme le disait ce passage tout à l'heure.
Nkuko twabisomye.
Rien pour attirer les regards. Vous savez, un jour j'enseignais là-dessus et je réfléchissais. Jésus ne brillait pas quand il était sur la terre. Dans la nuit, il y a personne qui pouvait dire « Eh, il y a une grande lumière là-bas que je vois dans la nuit, c'est Jésus qui est en train de marcher. » Il est venu comme un simple homme pour donner à tous ceux qui l'accepteraient une chance de pouvoir être sauvés. Non pas parce qu'ils avaient vu, mais parce qu'ils avaient cru. Et ça, c'est la grâce de Dieu, manifestée par sa puissance. Et dans Éphésiens chapitre 2, nous avons vraiment, à partir du verset 5, la même pensée. Ici, il est dit, 2:5, s'il vous plaît. Ayez en vous les sentiments ou la pensée qui était en Jésus-Christ, verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une force de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 7 seulement, s'il te plaît.
Ngo ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu.
Comme un simple homme. Jésus nous a montré l'exemple. L'exemple de la simplicité et de l'humilité. Un jour, nous serons remplis de sa gloire. Nous le verrons quand nous serons ressuscités, mais aussi que nous aurons reçu nos récompenses. Je vous expliquerai tout cela. Mais il est clair que Jésus dans le ciel,
ce
n'est pas comme la condition dans laquelle il était sur la terre. Jean va nous donner cette description de ce qu'il a vu. Et nous allons en parler. On va revenir donc sur l'Apocalypse. Il est dit au verset, donc je vais lire le verset 12, mais maintenant on va lire le verset 13. 12 et 13. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Nous découvrirons que les chandeliers d'or, ce sont les sept églises auxquelles Jésus s'adressait. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Rappelez-vous, Dieu nous a créés à son image. Beaucoup de chrétiens disent, mais à quoi ressemble Dieu?
Eh
bien, regarde ton prochain, tu verras à quoi il ressemble. Bien sûr, en étant parfait. D'accord, tu peux juste mettre les lunettes qui vont rendre parfait ton prochain. Mais la Bible nous dit que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Dieu sur son trône n'est pas un gros truc, un gros ballon vague. Nous ressemblons à Dieu. La Bible, on pourrait faire une étude là-dessus, je ne veux pas la faire, mais la Bible nous montre clairement que Dieu est assis sur son trône, qu'il a des yeux, des oreilles, une bouche. Nous lui ressemblons, frères et sœurs. Nous lui ressemblons. Et Jésus se révèle en gloire ici. Vêtu d'une longue robe. La Bible nous dit dans Ésaïe, justement, que Jésus a une robe.
Ésaïe
chapitre
6,
à partir du verset 1.
Ésaïe
chapitre 6, à partir du verset
1.
Il est dit, après la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Ésaïe 6, verset 1.
Alors, messieurs, nous portons des pantalons, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand il y a des gens qui sont très religieux, vous savez, je ne les nommerai pas.
Mais
les pharisiens et les descendants des pharisiens nous ont mis beaucoup de joues.
Et
vous savez que les descendants des pharisiens sont encore très vivants dans nos églises. Ils veulent mettre des joues sur les gens. Et alors, il y avait toujours cette discussion. Maintenant, ça commence à s'estomper un petit peu. Vous savez, la Bible nous dit que nous ne devons pas porter de vêtements de femmes. Ou du sexe opposé, quoi. Alors, c'est pour ça que souvent, quand des gens sont très religieux, ils disent, mais pourquoi les dames portent des pantalons? Alors, à cette question, vous pouvez répondre, mais nous sommes tous dans le péché parce que Jésus avait une robe. En fait, quand la Bible nous dit de ne pas, qu'en fait, on ne porte pas des habits de femmes ou d'hommes, etc. L'idée, c'est pour éviter l'homosexualité, de ressembler au sexe opposé. Voilà, c'est tout. Mais Jésus, dans le ciel, porte une robe. Alors, il est dit donc une longue robe et porter une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 13. Et là, bien sûr, l'or, dans la Bible, l'or, c'est le symbole de la gloire de Dieu. L'or est toujours le symbole de la gloire de Dieu. Ce qui représente la gloire, c'est-à-dire la présence manifeste de Dieu. Ou quand Dieu règne, rien de ce qui s'oppose à Dieu ne peut subsister. Quand Dieu règne quelque part, que sa gloire se manifeste, rien de ce qui s'oppose à Dieu ne peut subsister. Et l'aspect de la poitrine, bien sûr, c'est la puissance. Donc là, ça nous montre quoi? La puissance est dans la gloire de Dieu. C'est donc la puissance dans la gloire de Dieu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Et ça,
ce
n'est pas un signe de vieillesse. Un jour, je ne nommerai pas le prédicateur qui a dit ça, mais j'entendais un sermon. Et alors, ce brave frère qui est devenu un grand prédicateur d'ailleurs, mais à l'époque, il n'était pas très au point au niveau de la doctrine. Il faisait un commentaire là-dessus. Et il disait, oui, Jean a vu Jésus avec des cheveux blancs parce que, en fait, quand Jésus nous apparaît, si on est vieux, il nous apparaît comme un vieux, et si on est jeune, il nous apparaît comme un jeune.
Alors
j'ai vraiment dit, vraiment mon frère, là, il faut que tu changes ta doctrine. C'est ce que j'ai pensé, je
ne
l'ai pas dit. Non, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé ici. C'est la gloire qui entourait Jésus. C'est le rayonnement de gloire.
Ce
n'était pas des cheveux des cheveux blancs de vieillesse.
Mu byukuri ntiyari imishatsi yera y'gusaza.
La vieillesse est une conséquence du péché, rappelez-vous.
Wibuke kandi ko gusaza ni ingaruka y'icyaha.
Nous devrions tous rester jeunes si nous étions tous descendus d'Adam et Ève non déchus et que nous n'étions pas déchus non plus.
Iyo tuzakuba turi urubyaro rwa Adam na Eva batakoze icyaha uyu munsi nituba dusaza.
Mais notre corps est en train de vieillir, c'est la conséquence du péché.
Ariko imibiri uyu munsi irasaza
kubera. Mais gloire à Dieu, un jour tu auras un bon corps où tu te sentiras tellement léger.
Ariko Imana ishimwe umunsi umwe
uzosubizwa umubiri. Ce sera ton corps ressuscité.
Umubiri wawe wazutse uzowambara ugira umubiri.
Donc Jean voit vraiment Christ dans la gloire.
Nuko Yohana abona Kristo mu bwiza.
Il est dit verset 14, la fin ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ngo kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera babanda bavuga ngo n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro.
Alors cet aspect de flamme de feu.
Iki kintu kijanye n'imbeya z'umuriro.
C'est un regard d'amour.
Nu ni ukurabwa n'urukundo.
Tous ceux qui ont vu Jésus.
Abantu bose babonye Yesu.
Et qui décrivent ses yeux.
Bavuga ingena araba.
Disent que c'était comme des sources d'amour qui sortent de ses yeux.
Ngo iyo bamuravye mu maso umenga mu maso yewe hari amasoko.
D'une compassion extraordinaire pour l'humanité.
Ngo amasoko atemba y'urukundo imbabazi nyinshi afite
abantu. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs livres de vraiment de serviteurs de Dieu qui sont dignes de ce nom.
Narasomye ibitabo by'abakozi b'Imana bakwiye kwizigirwa by'ukuri.
Ils racontent tous la même chose.
Bose bavuga ikintu gisa gutyo.
Voir Jésus avoir de la compassion pour l'humanité.
Ngo babona Yesu afite imbabazi zidasanzwe kubw'abana b'abantu.
Un jour un serviteur de Dieu a une vision de Christ. Il a fait cette expérience d'être ravi en esprit.
Et il disait
qu'il voyait les yeux d'amour du Seigneur. Et il disait même une chose qui moi m'a vraiment étonné,
mais
ça montre l'amour que Dieu a. Et il a vu Jésus se mettre à pleurer à propos des perdus. Et le reproche qu'il disait à son peuple. Qu'ils s'occupaient plus de leurs propres affaires que des perdus. Et il montrait à ce serviteur de Dieu qu'il ne voulait que personne aille en enfer. Que c'est pas un plaisir pour Dieu de voir les gens aller en enfer. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de voir les gens partir en enfer parce que Dieu n'a pas créé les hommes pour aller en enfer. Dieu a dû créer l'enfer parce que c'est une conséquence du péché et que Dieu ne pouvait pas accepter au ciel des gens qui lui étaient rebelles et qui ne voulaient pas croire en lui. Et c'est pour ça qu'il a pourvu au salut. Et il a pourvu à un salut qui est très simple que n'importe qui peut recevoir. Ses yeux d'amour extraordinaires, ces flammes de feu d'amour. L'amour divin pour l'humanité. Ensuite, il est dit, ses pieds, verset 15, étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Alors, les pieds, bien sûr, c'est le symbole de la marche. Mais les reins, c'est-à-dire le cuivre, je ne sais pas trop si vous avez deux.
Ouais.
Eh bien, en fait, c'est le symbole du jugement. Dieu est un Dieu d'amour. Est un Dieu de gloire, mais c'est aussi un Dieu de jugement. Ça veut dire que Dieu est bon, il pardonne, il est compatissant. Mais avec Dieu, il y a toujours une limite. C'est lui qui fixe les limites. Il nous aime, il aime l'humanité, il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Il est patient. Infiniment patient. Mais il y a un jour, et ce jour est arrêté d'avance. Le jour où il reviendra en gloire. Le jour où Jésus viendra chercher son Église.
Eh
bien, il va y avoir le jugement qui va descendre. Donc Dieu est un Dieu de gloire. Mais souvenez-vous aussi que Dieu est un Dieu de jugement. C'est l'équilibre entre les deux. La gloire pour ceux qui le suivent. Mais le jugement pour ceux qu'il rejette. Autant il est rempli d'amour, il pardonnera tous les péchés de celui qui se repent. Mais Dieu est intransigeant. Le péché doit être jugé. Soit une personne donne sa vie à Jésus, et à ce moment-là, quand une personne donne sa vie à Jésus, elle passe et elle est au bénéfice du jugement de Christ, que Christ a subi pour elle. Mais si cette personne meurt, Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Dieu est aussi un Dieu de jugement. Et c'est le symbole justement de cela. Ensuite, il est dit, sa voix était comme celle, le bruit de grandes eaux. Et ça, c'est une expression qui est un peu étonnante. Et en fait, on voit que ce soit les visions d'Ézéchiel, que ce soit les visions de l'Apocalypse. Il parle de ce genre de choses, de la voix de Dieu comme étant la voix de grandes eaux. Alors c'est très difficile à interpréter ça. Ceux qui ont eu des visions du ciel nous disent que quand Dieu parle de son trône, on a l'impression que ça vient de très loin et que ça parcourt le ciel entier.
Mais
eux-mêmes ont eu vraiment du mal à décrire ces choses. Quand Dieu parle à partir de son trône. Alors je ne sais pas, c'est peut-être la meilleure expression que Jean ait pu trouver, la voix de grandes eaux. C'est-à-dire de l'eau qui coule et qui fait couler. Mais ça reste difficile à interpréter. Alors il est dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors les 7 étoiles, ce sont 7 églises, les fameuses 7 églises. Nous allons le voir, c'est expliqué au dernier verset, au verset 20, nous le verrons. Et il est dit de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça, nous savons, c'est vraiment le symbole de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Et la parole crée. La parole tranche. En Hébreu 4:12, il nous est parlé de la parole de l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Hébreu 4:12. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas la vérité. Et Jésus représente cette parole, cette vérité. Et qui s'oppose au mensonge du prince de la puissance de l'air. Parce que dans ce monde, comme la gestion a été donnée à l'ennemi, la gestion de la terre, le système de ce monde, la Bible nous parle dans Éphésiens 2, au verset 2 justement, du prince de la puissance de l'air. Du prince de la puissance de l'air. Desquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Et
là, c'est très clair. L'esprit du monde s'oppose à la vérité de la parole. Quand on a les mentalités du monde et qu'on parle comme le monde parle, on n'est pas dans la vérité, on ne se tient pas dans la vérité. C'est pour ça que Dieu veut qu'on apprenne à dépendre de sa parole. Sa parole, c'est Jésus, c'est-à-dire tout ce qui émane de Jésus. Jésus est la parole, c'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, on connaît tous ces versets. La parole était Dieu et elle était auprès de Dieu. Et le mot qui a été traduit par parole, c'est le mot logos ici. Et logos, c'est l'expression de quelqu'un. C'est-à-dire que Christ est l'expression de Dieu. De la pensée. De la parole. Des actions. Il est l'expression, la manifestation de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est clair que ce symbole devait être là quand Jean va voir le Seigneur glorifié.
Icyo kimenyetso cyategezwa kuba kiri ngaho Yohana abonye umwami Yesu ari mu bunini ahazwa.
Et il est dit au verset 16 donc du chapitre 1 toujours.
Rimwe 16 tubandanije.
Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Ngo mu maso hiwe mu nyonga hiwe ngo hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari.
Frères et sœurs, dans le ciel, il y a de la gloire. Aujourd'hui, ça nous est complètement voilé avec nos yeux de chair. Mais quand tu vas aller au ciel, c'est glorieux de la lumière de Dieu, de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste dans le ciel. Là, vous savez, nous vivons peu de choses de la puissance de Dieu. Parce que le monde physique et le manque de foi souvent et le manque de foi
et
bien limite cette puissance.
Et
des fois vous savez quand on va voir quelqu'un qui est guéri on va dire ouais gloire à Dieu tout le monde. Mais mon frère quand tu seras là-haut dans le ciel ça sera wow. Et tout le monde pareil. Il y a la fête dans le ciel. Il y a la gloire.
Ce que
nous vivons même dans les meilleurs temps où on peut être le plus touché par le Saint-Esprit. Ce n'est que peu de choses par rapport à la gloire qui est là-haut. D'ailleurs, à tel point qu'à cause de notre corps mortel,
et bien,
ce qui va se passer justement,
au
verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Pouf, sous la puissance de Dieu. Jean, quand il a eu sa vision ici, il est tombé sous la puissance de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Ils ont du mal à comprendre. Quand les gens sont touchés par la gloire de Dieu, les gens tombent sous la puissance de Dieu.
Ce
n'est pas quelque chose qui est nouveau. Daniel a eu exactement la même puissance qu'il l'a visité. Dans Daniel 10, 9 et 10, et 16 à 18, donc Daniel 10,
Daniel Gishachichumi.
J'aime bien étudier, je réétudie en ce moment le prophète Daniel, il y a vraiment des richesses dans ce prophète incroyable. Et Daniel va vivre des choses alors qu'il n'était pas né de nouveau. Mais des visions extrêmement fortes. Et il va se passer plusieurs fois des moments où Daniel, paf, tombe sous la puissance de Dieu. Parce que la gloire de Dieu le visite. Notre corps n'est pas capable de soutenir un peu même de gloire quand Dieu se manifeste. C'est pour ça que quand Dieu commence à manifester sa gloire, un temps soit peu quelque part, un petit peu de puissance,
les
gens tombent sous la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre corps mortel ne peut pas soutenir cette présence. Et c'est pour ça que les gens d'un seul coup se trouvent sans force. On va le voir dans le livre de Daniel. Donc Daniel reçoit une visitation puissante de Dieu. Et il est dit, j'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. La puissance de Dieu le touche et il tombe par terre. Et regardez versets 10 et 11. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Alors s'il n'était pas tombé, pourquoi il lui dit tiens-toi debout ? À la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il me dit cette parole, je me tins debout en frémissant, c'est-à-dire en tremblant.
Nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi n'ibiganza njugumira arambwira ati Daniel muntu w'umukundwa cyane utahura amajambo ngira nkubwire va hasi uhagarare kuko ubu ngutumwe ko amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashitse.
Donc la puissance de Dieu l'a visité.
Et
il est tombé par terre. Il a perdu ses forces physiques. Et la main le touche.
Et
il est tout tremblant. Il se met sur ses genoux ensuite. Et après, il se met debout. La Bible est claire. Il est visité par la puissance de Dieu. Il est visité par la puissance de Dieu. Alors si vous voyez des gens qui tremblent parfois, alors qu'ils sont visités par la puissance de Dieu, ne jugez pas. Ne jugez pas. Il y a des gens, quand ils sont touchés par la puissance de Dieu, ils sont comme électrifiés. Et quand tu prends un gros coup de jus, si tu mets ta main dans une prise de courant, tu vas voir si tu vas bien sentir après. Sauf que le courant, c'est du naturel et ça va te faire mal. Mais la puissance de Dieu ne te fait pas mal, au contraire.
Par contre,
un seul coup, quand elle descend sur toi, tu es sans force et tu tombes sous la puissance de Dieu. Et il y a la même chose au verset 16 à 18. Il est dit au verset 16, et voici quelqu'un qui ressemblait au fils des hommes toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi: mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Il était comme ça, tout simplement. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, me transmit des forces, si vous préférez. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple dans la Bible, par exemple dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. Il y a plein d'exemples dans la Bible, j'en prends que quelques-uns. Ézéchiel va voir le trône de Dieu, il va avoir une vision. Au chapitre 1, je vous dis, si vous voulez apprendre des choses sur l'onction de Dieu et sur le monde spirituel, étudiez les expériences d'Ézéchiel. C'est le livre qui vous donnera le plus, je dirais, de détails sur la façon dont ce qu'on ressent, ce qu'on voit, etc., etc., quand on est visité par la puissance de Dieu. Donc, il va voir le trône de Dieu.
Et
la puissance de Dieu va lui tomber dessus. Et la Bible nous dit au verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Il a vu le trône de Dieu. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, quoi ? Je tombais où? Sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait.
Aravuga ngo ngo nkuko umunwa amazi yo kugicu usa ku munsi w'imvura ni kuguhangana kwari kumurikiye hijyano hino ibyo byari bimeze nk'ibisa n'ubwiza bw'uhoraho mbibonye nikubita hasi nubamye numva ijwi ryuvuga.
Au chapitre 3 verset 22, c'est la même chose.
Ezekiel 3:22 ni kintu nk'ico nyene.
Jusqu'au verset 24.
Gusha kuri 24.
Il fait le même genre d'expérience. Il est visité par la puissance de Dieu. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. C'est le symbole de la puissance de Dieu, de l'onction qui descend sur quelqu'un. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. Verset 23. Je me levai et j'allais dans la vallée, voici la gloire de l'Éternel y apparut. La gloire de l'Éternel, telle que je l'avais vue auprès du fleuve de Kébar, c'est-à-dire le chapitre 1. Vous pourrez lire ça à la maison, la vision qu'il a du trône au chapitre 1. Alors je tombais sur ma face, verset 24. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alors entrer en moi, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit non, la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas du Nouveau Testament. Il y a aussi un exemple dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça que ça veut dire ici. Ce n'est pas la nouvelle naissance, bien sûr. C'est il lui donna des forces, simplement, au niveau de son corps. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, etc. Donc en fait, ici, on voit la même chose. Il est visité par la gloire. Et il perd ses forces.
Il tombe
sous la puissance de Dieu.
Il
tombe sur sa face.
Et
ce n'est pas en adoration, il n'est pas dit en adoration
ici.
Que ce soit Daniel, que ce soit Ézéchiel.
C'est
la puissance de Dieu.
Vous vous rappelez
de cette histoire dans le jardin de Gethsémané?
Où
les soldats viennent arrêter Jésus. On dit on cherche le Christ, on cherche Jésus.
Il
dit c'est moi. Et d'un coup tous les soldats ils tombent par terre.
Il y a
un exemple dans la vie. Paul, dans Acte 9, c'est la même chose.
Il était
sur son cheval, il n'est pas resté longtemps sur son cheval.
Il était
là, d'un seul coup, Jésus se révèle à lui.
La
puissance de Dieu lui tombe dessus.
Et il
tombe par terre. Il y a plein
d'exemples.
Quand Salomon va dédicacer le temple,
dans
les chroniques, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que la puissance de Dieu leur tombe dessus, les sacrificateurs sont là, ils célèbrent le Seigneur.
Et
la puissance de Dieu descend.
Et
la Bible nous dit qu'ils ne purent pas se tenir debout pour faire le service, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sous la puissance de Dieu dans d'autres traductions. Donc Jean va faire cette expérience-là.
On
revient à l'Apocalypse donc. Jean va être saisi par la gloire. Et quand on est saisi par la gloire, notre corps a du mal à résister à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu nous traverse et elle passe au travers de notre esprit par notre corps. Et notre corps n'est pas capable de supporter la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que tu dois mourir physiquement. Parce que ton corps ne supporte pas même une goutte de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, quand tu commences à être visité dans ton esprit, ton corps a du mal.
Et
il y a des gens d'ailleurs, des fois, même quand la présence de Dieu se manifeste qui n'est pas très fortement,
d'un
seul coup ils sont saisis.
Il y
a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la présence de Dieu. Maintenant, vous savez, le signe de tomber par terre n'est pas forcément un signe de grande spiritualité.
Ce
n'est pas ça qui fait que quelqu'un est super spirituel ou pas.
Moi,
j'ai vu des gens être visités vraiment par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui donne une chance aux gens de vraiment se corriger dans leur vie. Quand Dieu te visite, il te montre tel que tu es. Donc en fait, c'est quelque chose que Dieu fait dans ta vie pour t'amener à changer.
Ce
n'est pas quelque chose que Dieu fait dans ta vie histoire de dire, ah, t'es super spirituel. Tu tombes sous la puissance. Ce n'est pas ça. Quand Dieu nous visite, frères et sœurs, c'est pour nous montrer tel qu'on est. Réellement où on en est spirituellement, en vue de nous aider à changer, c'est-à-dire aller beaucoup plus profond avec lui, toujours beaucoup plus profond avec lui. C'est l'objectif de Dieu dans cela. Il y a des gens, parfois on a prié pour eux et vraiment et régulièrement ils sont touchés par la puissance de Dieu et ils marchent bien avec le Seigneur parce que régulièrement ils changent des choses dans leur vie pour être plus proche du Seigneur, pour être transformé à son image. Maintenant il y a des gens pour qui on a prié. Ils se sont retrouvés par terre même une demi-heure, une heure ou plus.
Mais
après, ils n'ont pas mis leur vie en règle avec le Seigneur. Et certains d'entre eux ont même rétrogradé. Moi, je ne regarde pas les manifestations. Ce qui m'intéresse, c'est les fruits. Ça, c'est très important. Je tiens à le souligner. Parce que vous savez, il y a des gens qui confondent trop facilement manifestations et fruits. L'important, c'est que tu sois ouvert à la présence de Dieu. Et que tu laisses Dieu intervenir dans ta vie. Et que tu changes, que tu dois changer. Pour t'approcher davantage de lui. Pour être vraiment rempli et transformé. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand on est touché par Dieu, il faut qu'on se sanctifie, qu'on se mette à part. Qu'on se nettoie Parce que c'est là où Dieu te montre où t'en es.
Et tu te dis,
oh là là, Seigneur, là vraiment, waouh, je dois changer ça dans ma vie.
Et
quand tu le fais, alors la gloire de Dieu pourra revenir dans ta vie. Et puis encore revenir dans ta vie. Et l'onction de Dieu s'intensifiera dans ta vie. Et c'est alors que vraiment tu vivras des choses de plus en plus fortes. Et que Dieu te préparera pour tes phases de ta destinée. Par contre, souvent les gens, c'est là où ils ne changent pas. Dieu nous donne les occasions de changer. Et quand tu as une opportunité de changer, que Dieu te visite d'une certaine façon, change, mets en ordre ta vie. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas de fruits. Et au contraire, tu risques après d'avoir plus de tentations et d'être tenté à retourner en arrière. Et malheureusement, c'est triste. Mais ça arrive. Et on a vu ça même dans des moments de réveil. On a vu ça aussi même dans des moments où l'Esprit de Dieu commençait à visiter des églises entières. Où des gens étaient sous la puissance de Dieu pendant des heures et des heures. Avec une présence de Dieu très intense. Mais ceux qui en sont toujours sortis et qui ont toujours été de gloire en gloire, c'est ceux qui ont voulu changer et fonder leur vie sur la parole. Donc les manifestations, moi je dis oui et amen. Mais les manifestations qui amènent une transformation. Amen. Ça c'est important, frères et sœurs. Retenez toujours ça dans votre vie spirituelle. Une visitation de Dieu, c'est une visitation de Dieu. Tu n'es pas responsable de ça. C'est Dieu qui te donne une chance d'aller plus loin dans ta vie, de se révéler davantage à toi. Mais il faut que tu prennes cette opportunité pour changer, pour creuser ta vie spirituelle, pour nettoyer ce que tu as nettoyé. Et quand tu fais ça, vraiment Dieu te donnera autre chose à faire. Et tu seras de plus en plus stable dans le Seigneur. Tu seras fort, indéracinable. Rien ne pourra venir contre toi. Aucune arme forgée contre toi ne pourra subsister. Rien ne pourra briser ta destinée. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais comment marcher dans sa présence. Et tu sais que sa présence, comment elle peut revenir et revenir encore dans ta vie. Ensuite, il est dit, donc il lui dit, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, verset, la fin du verset 17. Là encore, je suis l'alpha et l'oméga. Toujours, Jésus est l'initiateur de toutes choses et celui qui maîtrise toutes choses. C'est ça que ça veut dire. Le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Verset 18.
Ngo ashirako kuboko kw'iburyo ati ntutinye jewe ndu wa mbere kandi ndu wiherezo kandi ndi muzima nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira mfise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu.
C'est clair que c'est Jésus qui tient la mort et la clé de la mort et du séjour des morts.
Biratomoye ko yesa ari afise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu.
Pourquoi? Parce que c'est au travers de lui que nous pouvons accéder à la vie éternelle. Hors de lui, il n'y a point de salut. Oui, nous prêchons un évangile exclusif. Nous ne prêchons pas une solution pour l'homme. Nous ne prêchons pas un chemin. Nous ne prêchons pas un sauveur. Mais nous prêchons le sauveur. La solution. Nous sommes exclusifs. L'évangile est exclusif. Il
n'y
a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre porte. Jésus l'a dit. Il
n'y
a pas d'autre chemin. D'autre porte. Il
n'y
a pas d'autre possibilité. C'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Pour que nous puissions aller dans la vie éternelle. Après la mort physique. Il
n'y
a pas d'autre chemin. Tous les autres sont morts. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un frère qui avait une chanson qui était très marrante d'ailleurs. Où il nommait des gens très célèbres. Et il disait, un tel est venu et il est mort, un tel est venu et il est mort. Il prenait des noms de présidents, il prenait des noms de Bouddha, de Mohamed, de tous ceux qui se sont dit, il y a des
Christs.
Ou être des sauveurs des nations. Mais après, il plaçait Jésus là où il fallait le placer. Jésus-Christ est venu, il est mort. Mais il est ressuscité. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. C'est le seul. Nous prêchons un évangile exclusif. en dehors de Christ, pas de salut. Pas d'autre possibilité. Celui qui veut aller au ciel, il doit se repentir. Il doit croire que Jésus-Christ est mort pour ses péchés personnels. Il doit croire qu'il est ressuscité. Et il doit l'accepter comme sauveur personnel. Il doit vivre ce miracle. En dehors de ça, il n'y a que mensonge. Les religions chrétiennes ont essayé de se rapprocher du message de l'évangile. Je suis désolé, on peut faire des efforts, mais on ne peut pas être dans le compromis. Soit on est né de nouveau et on est dans le royaume, soit on n'est pas né de nouveau et on n'est pas dans le royaume.
Ce n'est
pas une question d'église, ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas le baptême qui sauve.
Mais
c'est Jésus qui tient. Nulle part il est dit, les catholiques, les protestants, les tout ce que vous voulez, ont la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui, Jésus, la clé de la mort. Verset 19, il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Donc ça fait la deuxième fois qu'on lui dit d'écrire. Mais vous voyez bien ici, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que l'Apocalypse aussi donne des événements qui sont passés, qui était présent au moment où Jean reçoit la révélation, et des événements futurs. Ce n'est pas seulement le futur que l'Apocalypse nous donne. Parce que ça, c'est souvent malheureusement ce que les gens voient dans l'Apocalypse, des choses futures, futures, futures. Nous verrons qu'il y a une certaine révélation aussi de la chute du diable dans l'Apocalypse, qui s'est passée il y a bien longtemps. Alors maintenant, il va dire au verset 20, « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. »
Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'iby'ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi. Ibitereko kw'amatara ndwi nabyo nibyo mashengero ndwi.
Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur tout cela.
Ibi rero barabihariye ko cyane.
D'abord, Jésus dit, il parle de sept chandeliers et sept étoiles.
Yes, avuga ibitereko kw'amatara ndwi n'amanyenyeri ndwi.
Il dit que les sept chandeliers sont les sept églises.
Aravuga ati ibitereko kw'amatara ndwi n'amashengero ndwi.
Donc les églises dont il va à qui il va adresser un message.
Ya mashengero azobwira bwa butumwa.
Le chandelier, ça nous fait penser à quelque chose qui va éclairer.
Abimo ibitereko kw'amatara bitwereka ikintu kimurika.
Et effectivement, Dieu place les églises locales
Imana rero amashengero
comme des lumières dans ce monde de ténèbres.
Amashengero ari mu bibanza bitandukanye,
les vraies églises locales, il les place comme une lumière qui va briller dans ce monde de ténèbres.
Amashengero atandukanye Imana yagereranya nk'imico
ikayangana n'isi. Et c'est pour ça que Dieu a voulu beaucoup de lumière partout dans ce monde.
Nico gituma Imana yashatse ko habaho amatara menshi yayo hano
mu isi. Le monde voit Christ au travers de l'église.
Ici ibona Kristo biche mu ishengero.
Et c'est marrant, quand j'ai eu l'occasion plusieurs fois de voler au-dessus de certains territoires, surtout quand vous survolez certains états des États-Unis où c'est très éclairé, très habité, et que vous êtes assez haut en avion et que le ciel est complètement dégagé. C'est très impressionnant de voir toutes ces lumières qui brillent et qui s'assemblent pour former une immense lumière. Et c'est ce que l'église devrait être sur la terre. D'une manière générale, les églises locales, c'est ce qu'elles devraient être. Dieu a donné à l'église la vérité. L'église, c'est le pilier de la vérité. C'est au travers de l'église que les gens reçoivent Christ. Au travers du témoignage des chrétiens. Au travers des réunions d'église. Au travers des activités que l'église fait. C'est là où la présence de Dieu, quand le corps de Christ se réunit, où la présence de Dieu doit se manifester, où la vérité de la parole de Dieu doit briller dans nos cœurs, où les ministères exercent et servent le peuple de Dieu. Au travers de l'église. l'église.
Ensuite,
il parle aussi des sept étoiles.
Alors,
les sept étoiles,
les
dix, c'est les anges.
Alors,
il y a certaines personnes qui ont dit, oui, ça veut dire que c'était les pasteurs des sept églises.
Et je ne
suis pas du tout d'accord dans ce genre d'interprétation. Parce que nulle part dans la parole de Dieu, d'abord, un pasteur est appelé un ange. Nous sommes des anges, mais quand même. Nulle part dans la Bible vous verrez qu'un ange est appelé un pasteur est appelé un ange. Quand on étudie le ministère pastoral,
il
y a particulièrement deux termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, bien sûr. D'abord, il y a le terme de berger. Et un berger, ce n'est pas un ange. Un berger éduque les brebis. Un berger soigne les brebis. Un berger a un troupeau. Il les nourrit. Il fait attention à elles, il les protège, etc.
etc.
Il y a toute cette image. Une autre image que l'on a, bien sûr, au travers du mot évêque. Voilà, oui, tout à fait. Épiscopie, oui, tout à fait. Parce que justement, c'est la traduction du mot grec. Qui veut dire un surveillant. Pas dans le sens d'un policier. Ou d'un KGB ou d'une CIA. Mais dans le sens de veiller sur, avoir la responsabilité de.
Donc
quelqu'un à qui Dieu donne une responsabilité. Sur un peuple. C'est ça que ça veut dire. Donc nulle part on voit qu'un ange, je veux dire le terme ange qui veut dire ni plus ni moins messager. Un ange pourrait être l'équivalent d'un pasteur. Absolument pas, on ne trouve pas ce genre d'équivalent dans la parole de Dieu. Par contre, ça nous révèle quelque chose ici qui est très intéressant. En fait, on voit une chose ici, c'est que dans les vraies œuvres de Dieu. Vous savez, plus j'avance, et surtout là, vous voyez, il y a quelques années, le Seigneur m'avait parlé beaucoup au niveau leadership, au niveau business, au niveau la vision, etc. Et vraiment, le Seigneur m'avait clairement montré un certain nombre de choses, un certain nombre de clés. Mais là, Dieu vraiment me parle à propos de l'intelligence du royaume. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Parce que vraiment, je m'aperçois clairement que les gens ont très peu d'intelligence du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que les gens ont tendance à faire la chaussure. Ils sont nés de nouveau. Ils vont dans les églises. Mais la façon dont ils fonctionnent avec Dieu et dans son royaume, ils fonctionnent avec des pensées humaines. Ça peut être au niveau de l'organisation. Ça peut être au niveau comment ils voient le ministère d'une manière générale. Et ça, souvent, malheureusement, je le vois. La plupart des gens échouent au niveau des églises et du ministère. Parce qu'ils appliquent leur façon de penser de manière humaine. Qui pourrait être tout à fait louable humainement parlant.
Vous
voyez, humainement parlant, ça pourrait dire c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas les principes divins, les lois du royaume avec l'intelligence divine. Pour faire les œuvres de Dieu. Ce qui fait que nous avons beaucoup de désordre au niveau des églises à cause de ça. Parce que beaucoup de gens veulent fonctionner avec des principes humains. Beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur ou qui rentrent dans des ministères
le
font malheureusement souvent avec des façons humaines. Ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et ils appliquent comme si c'était des choses qu'ils ont eu l'habitude de comprendre avec leur propre intelligence. Ce qui fait qu'on a beaucoup de désordre. Et ce qui amène beaucoup de gens à faire des erreurs. Des mauvais pas dans leur destinée. Et ce qui les amène après du désordre dans l'église de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible est claire. Sur chaque œuvre de Dieu, il y a chaque vraie œuvre de Dieu.
Donc,
il y a un ange au-dessus. Et vous savez, les anges, la Bible nous en donne une description dans Hébreux chapitre 1. Description dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7. Et il est dit, de plus, il dit à des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit aussi au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Verset suivant, s'il vous plaît. Et encore, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 14 maintenant. Ne sont-ils pas, il parle des anges, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on a? Les anges sont quoi? C'est dit ici clairement, des esprits donc, au service de Dieu. C'est-à-dire sous le commandement du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Christ qui est la tête de l'Église. Vous savez, Dieu est un Dieu organisé. Si aujourd'hui tu es dans le désordre à l'intérieur et à l'extérieur de ta vie et que tu vas au ciel, tu vas avoir un choc terrible. Quand tu vas aller au ciel, tu vas avoir un choc terrible. Au ciel, tout est parfaitement ordonné dans la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui est de travers. Tout est hyper ultra ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de planification. Il
n'y
a pas des anges qui font ce qu'ils veulent dans tous les sens. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Rien dans le ciel n'est désordonné. Donc Dieu envoie ses anges sur la terre. Et il envoie ses anges pour différentes raisons. Envoyés, vous voyez bien, ils sont au service de Dieu, donc soumis à Dieu dans l'organisation, dans l'ordre. Et après, il est dit envoyés, envoyés du ciel vers la terre
donc,
pour exercer un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Et où sont ceux qui doivent hériter du salut? Normalement, ils sont dans les églises locales. Entre autres. En tout cas, quand des gens commencent à prêcher qu'il ne faut pas appartenir à une église locale, c'est un courant qui commence à traîner là. J'entends des bruits là, qui arrivent là. Vous savez, les fausses doctrines, ça vient, ça part et ça revient. En ce moment, on commence à prendre des doctrines de la grâce. Je commence à en entendre parler, là, ça commence. Et on commence à les enseigner d'une façon, je dirais, tordue, ça commence. J'entends des choses, ça commence à revenir dans mes oreilles. Vous savez, nous, les pasteurs, les murs ont des oreilles pour nous.
ndababwire ko abapastori burya ibihome biradufitiye amatwi biratwumvira.
Ça revient dans nos oreilles ce genre de choses.
Ibintu nk'ibyo turabyumva
amatwi. Surtout le désordre que des gens mettent à droite à gauche.
Cyane cyane umuvurungano ibyo bintu usanga
byasanga. Et on commence à prêcher que tout est par grâce, c'est la grâce uniquement.
Hamba bagatangura kwisha ko byose ari ubuntu kandi ko ari ubuntu gusa.
Et c'est vrai, nous sommes sous la grâce.
Nivyo turi mu
gihe. La grâce ne doit pas être un prétexte pour faire n'importe quoi.
Ariko ubuntu nibukwiye kuba igituma umuntu abaho uko ashatse cyangwa
akora icyo ashatse. La grâce c'est pas un prétexte pour faire ce que tu as envie de faire n'importe comment.
Ubuntu nibugutuma.
Et de désobéir au Seigneur.
Ukore icyo ushaka kandi utumvira Imana
uko ushaka. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à se faire attraper, je commence à en entendre, qui sortent des églises à droite à gauche.
Hari abantu batangiye gufatwa gutyo bagenda kuva bamashengero hirya no
hino. Sur chaque église qui a été fondée par lui.
Imana ishira umumareka wayo.
Je ne parle pas des gens qui s'initient pasteurs ou qui font des trucs qui divisent ou quoi que ce soit. Je parle là où Dieu plante réellement de réels serviteurs de Dieu. D'ailleurs, soit dit en passant, on va voir que Jésus va prévenir dans le message aux sept églises, il va prévenir deux fois à propos des faux serviteurs de Dieu. Dieu place un ange au-dessus de ses vraies œuvres. Parce que quand vous fonctionnez dans les choses spirituelles, il y a de sérieuses attaques qui viendront contre vous et contre l'œuvre de Dieu. Parce que Satan n'aime pas les vraies œuvres de Dieu. Il aime bien la religion parce que la religion amène les gens en enfer. Il aime bien les trucs super spirituels très mélangés avec des esprits sataniques. On verra ce que Jésus va dire aux sept églises. Mais il n'aime pas les vraies œuvres de Dieu. Parce qu'il sait que celles-là, elles font mal à son royaume. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la protection angélique. Qu'une œuvre de Dieu ne soit jamais détruite. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit la semaine prochaine.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.